Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a?
Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission consacrée au cinéma. Pendant une demi-heure, nous allons parler de films qui sont en salle pour la majorité depuis le 1er mai. Et nous ferons aussi un blind test, parce qu'on a l'habitude d'en faire dans cette émission, et nous le consacrerons à la filmographie de Laurent Cantet, l'immense cinéaste français qui nous a quittés le 25 avril. Bonjour Sophia, tu vas nous parler d'un film qui paraît intéressant.
Oui, une petite production espagnole réalisée par deux Vénézuéliens, Upon Entry en anglais, Borderline en français.
Et toi Manu, deux films.
Le Déserteur, hein, un film israélien, et puis le nouveau film du cinéaste culte Shinya Tsukamoto, L'Ombre du Feu.
Et puis Guillaume, eh bien, lui nous parlera d'un livre, on le fait de temps en temps, pas suffisamment dans Cinérama. Ce sont les mémoires de Jean-Marie Poiret, ce sera en toute fin d'émission. Et je vous parlerai aussi, mais très rapidement, d'un petit truc en plus, la comédie réalisée par Artus. Mais nous allons commencer par Ryan Gosling et Emily Blunt qui nous rejouent l'histoire de l'homme qui tombe à pic. Rebonjour, Colt Sivers, c'est The Fall Guy.
This is Cinérama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Tu es littéralement la dernière personne sur Terre que j'ai envie de voir. Je suis à deux doigts de te gifler, là, ça me démange.
Je serais pas contre l'idée, dans un environnement moins dangereux.
Parlons vite de la plus grosse sortie du 1er mai, évidemment un film américain de Fall Guy avec Ryan Gosling et ses mèches blondes qui incarnent Colt Sivers, la star de la série un peu ringard des années 80. Mais il faut tout de suite l'admettre, hein, il n'y a aucun rapport entre la série dans laquelle on voyait un chasseur de primes qui faisait à peu près toujours les mêmes cascades et ce long métrage de David Leitch qui se creuse pour mettre en scène un grand nombre de cascades et de séquences bourre-pif. Le réalisateur est ancien cascadeur et co-réalisateur de John Wick, il sait régler les choses au millimètre et ça fait plaisir à voir. Le plus intéressant dans The Fall Guy, c'est l'hommage qui est rendu au métier de cascadeur, acteur de l'ombre du cinéma. Le réalisateur le fait en nous plongeant sur le tournage d'un film de science-fiction qui reprend la musique et quelques codes de Dune et qui, lors d'une séquence, met plein pot la musique de Miami Vice. S'intéressant aux cascadeurs, les acteurs et producteurs sont pointés comme les rouages les plus malsains d'Hollywood. L'acteur que doit doubler Ryan Gosling, enfin Colt Sivers, en tient une bonne, et c'est justement lui que doit aller retrouver le cascadeur pour que le film mis en scène par celle dont il est éperdument amoureux, Emily Blunt, puisse se terminer.
Tom Ryder, la plus grande star de films d'action du monde, a disparu. Il faut que tu le retrouves, sinon le film de Jodie est fichu.
Pourquoi moi?
Parce que t'es cascadeur. Personne ne va te remarquer, c'est ton boulot. Le prends pas mal.
Ah bah, un peu, si.
8,5 tonneaux en voiture, homme torche, ski nautique sur une plaque en fer en pleine rue, les scènes d'action et de cascade ne manquent pas, mais les séquences sentimentales ne manquent pas non plus. Le film oscille entre la comédie romantique et l'action, rythmée par la musique de Kiss, I Was Made for Loving You, balancée alors là, vraiment à toutes les sauces. Colt Sivers est parti un moment sans donner de nouvelles, pourtant il aime plus que tout le personnage d'Emily Blunt, c'est comment il va lui dire qu'il l'aime qui importe. Vu les péripéties de l'action, eh bien ça prend du temps. Ryan Gosling joue une belle partition dans une tonalité comique, on repense à Barbie, et tout en exhibant ses muscles. Ce n'est pas le film de l'année, mais on prend quand même un plaisir coupable à voir l'acteur valdinguer. The Fall Guy est en salle depuis le 1er mai.
Tu fais quoi après? Tu vas aller te poser sur une plage?
Boire des margaritas épicées?
Et faire les mauvais choix?
Oui!
Tourné avant l'attaque du Hamas contre Israël en octobre 2023, Le Déserteur dresse le portrait d'un jeune Israélien qui refuse la logique guerrière. Nous en parlons maintenant.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Le Déserteur s'ouvre par un plan séquence brillant, en steadicam suivant un soldat en pleine guerre, dans un village arabe qui semble nous amener au cœur du combat. Or, c'est le contraire qui se déroule, ce soldat, c'est Shlomi, israélien de 18 ans, qui fuit le conflit. Alors, il ne cesse de courir, nous emmenant avec lui hors des hostilités belliqueuses entre la Palestine et Israël, même si l'ennemi n'est pas ouvertement nommé. Ce jeune homme fougueux, qui nous embarque d'un lieu à l'autre, eh bien, ce déserteur, que la caméra de Danny Rosenberg ne va pas lâcher du début à la fin. Shlomi n'a aucun plan établi dans sa tête, juste épris d'une liberté immédiate, pulsionnelle, avec le désir d'aller voir sa grand-mère, ses parents et surtout sa petite amie, sans en mesurer les conséquences. Par une pirouette scénaristique amusante, mais peu crédible, l'armée signale sa disparition en pensant qu'il s'est fait kidnapper par les Arabes. Le Déserteur est une sorte de road movie heurté, hein, fait d'aller-retour dans lequel le héros, tel un personnage issu du burlesque, ne cesse de provoquer, alors non pas des catastrophes, mais des situations embarrassantes. L'idée sur le papier est séduisante, hein, cette rencontre entre le cinéma, on va dire, de Amos Gitai et de Buster Keaton, hein, dont Rosenberg, le cinéaste, se revendique, ne convainc pas vraiment à l'écran, faute de rythme et d'enjeu. Alors on se désintéresse assez vite, hein, du sort du personnage principal, à force de dédramatiser les événements, de reléguer un conflit quand même très dur en arrière-plan, comme si personne n'était véritablement impacté. Alors Danny Rosenberg vise juste, avec son portrait de cet insoumis fougueux qui n'aspire qu'à vivre librement, s'affranchir de tout ce qui dérange, mais face à lui, les protagonistes et antagonistes n'existent pas vraiment, hein, ne font jamais avancer un récit qui finit par faire du surplace. La mise en scène, hein, immersive, impressionnante dans son début, hein, se délite, hein, en succession, bah, de champ contre champ, de caméra portée à l'épaule et de plans moyens manquant d'envergure et d'ouverture. La démarche pacifiste, hein, certains diront neutre, de Danny Rosenberg est inattaquable, mais les meilleures intentions ne sont pas garantes d'un bon film. Le Déserteur ne fait qu'aligner des promesses souvent non tenues, ne parvenant jamais à choisir entre la comédie assumée ou le drame réaliste, restant constamment le cul entre deux chaises, hein, finissant par provoquer un petit ennui malgré sa courte durée. À signaler tout de même la jolie performance de Ido Taco, comédien survolté à l'énergie grisante.
Le Déserteur, film israélien, est en salle depuis le 24 avril. Virtuose, anxiogène, un suspense époustouflant, autant de qualificatifs sur l'affiche de Borderline dont tu vas nous parler maintenant, Sophia.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Je crois que j'ai oublié mon...
C'est ton quoi ?
Mon passeport.
T'as cherché partout ?
C'est là ? Oui, je l'ai. Ah.
Ça fait quelques mois que je chronique des films avec vous, Vincent, Manu, Guillaume, pour Cinérama, et je réalise que j'aime bien parler à nos auditeurs des débuts de films. Parce que quand ils sont bien faits, ça permet de ne pas spoiler tout en mettant en lumière toutes les thématiques que l'œuvre arbore déjà au seuil de son développement. Dans Upon Entry, dont je vais parler, ou Borderline en français, le film s'ouvre sur une scène en voiture, dans le taxi, qui va mener un couple, Diego et Elena, à l'aéroport pour quitter Barcelone et rejoindre les États-Unis, où ils ont décidé d'aller poser leurs valises. On pourrait dire pour s'y expatrier, mais privilège occidental oblige, le terme adéquat quand on n'a pas le bon passeport, c'est immigrer et non s'expatrier. En effet, on apprend plus tard qu'Elena a la nationalité espagnole, alors que Diego est vénézuélien. Mais pour en revenir à la séquence inaugurale, on a, un peu comme dans le cinéma d'Amaguchi, hein, si on pense notamment à Drive My Car, mais pas que, un plan fixe, donc, en voiture, qui permet, outre l'économie de moyens, une immobilité frontale pour mieux s'intéresser aux personnages et cerner leurs intériorités. Ici, peu de dialogue, mais on a déjà trois éléments qui donnent d'emblée le ton du film. Le premier étant off, à la radio, on entend une émission étrange qui appelle à lever des fonds pour aider le président Trump à ériger son wall, hein, ce mur d'enceinte sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le thème et le cadre sont posés, on est en 2019 et nos protagonistes partent pour un pays de plus en plus hermétique. Puis, lorsque la musique reprend sur les ondes radiophoniques, on flotte un moment avec les deux personnages qui semblent méditatifs, mais heureux et amoureux, jusqu'à ce que Diego se mette à chercher nerveusement son passeport qu'il pense avoir oublié. Elena demande au taxi de s'arrêter, puis de repartir quand Diego remet la main sur son document d'identité. La tension créée à ce niveau de l'intrigue est constitutive de toute la construction narrative qui arrive. Enfin, le troisième élément réside dans ce cadrage sur le couple, tout simplement, qui nous dévoile d'ores et déjà que le film va véritablement s'intéresser à eux en tant qu'entité couple.
We are moving here. Is this going to take long? We have a connecting flight to Miami.
Everybody has a connecting flight.
Arrivé sur le territoire états-unien, le passage à la douane se profile mais ne se déroule pas aussi bien que prévu. L'angoisse de Diego, qui est particulièrement palpable depuis le départ, est comme validée, puisque l'enjeu du passage à la frontière n'est pas le même pour les deux tourtereaux qui n'ont en fait pas les mêmes nationalités. Et ainsi, nos deux personnages se retrouvent dans l'obligation de suivre le douanier vers une zone de contrôle approfondie, sorte de zone franche, comme un non-lieu en suspension entre deux frontières, un lieu de non-droit. C'est là qu'ils seront soumis à un long interrogatoire, musclé et psychologiquement violent. Les deux réalisateurs vénézuéliens, Alejandro Rojas et Juan Sebastián Vázquez, capitalisent bien sur le potentiel anxiogène de ce lieu de contrôle, qu'est la frontière, la douane, où l'on est toujours suspecté, questionné, fouillé aléatoirement ou de manière plus ciblée, car on n'est pas tous égaux face aux autorités de contrôle et on n'a pas tous les mêmes droits aux frontières. C'est une chose que le film met très bien en scène. D'ailleurs, dans cette antichambre qu'est la salle d'attente, hein, pour le contrôle approfondi que va subir le couple, on voit bien aussi qui se retrouve là à attendre. On reconnaît des nationalités, des couleurs de peau. En fait, un scan de cette salle nous donne une photographie peu précise mais assez représentative de la situation géopolitique du monde et des conséquences historiques du dernier siècle.
Qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Elle a décidé de nous faire chier.
c'est que nous avons de nouvelles informations. Vous êtes nerveux ? Vous savez ce qui me rend nerveuse, moi ? Les menteurs.
Do you trust your partner? Do you think she trusts you?
Dites-moi la vérité qu'on en termine.
Please stop.
Dites-moi la vérité.
Pour notre couple, un douanier puis un autre passent le relais à l'agent Vasquez, incarné par Laura Gomez, qui est remarquable. Elle va mener un interrogatoire musclé, montant de plus en plus en intensité. Elle va questionner les motivations de Diego et Elena à immigrer et, dans cette quête de vérité, va outrancièrement rationaliser leurs décisions pour, d'une part, mettre en lumière des incohérences et, de l'autre, ramener à la surface des éléments du passé, de sorte à incriminer le couple et, plus particulièrement, Diego. Tout va être reconsidéré par cet agent qui la dynamique interpersonnelle du couple d'une maxi-dose de suspicion sur d'ébranler les deux amoureux, avec des questions de plus en plus personnelles, voire particulièrement intrusives, dans le but de dépeindre Diego comme opportuniste et intéressé. Ah, c'est le problème hein, quand on essaye de rationaliser l'amour. Le focus se fait sur la nature de la relation entre ces deux personnages, leur récit constitutif et les choses qu'ils ne se sont jamais dites. Ainsi, la mise en scène parvient à moduler une belle intensité jusqu'au climax. Le jeu des acteurs Alberto Amann et Bruna Cusi est juste et touchant. En clair, on a affaire à un film étouffant, angoissant, mais brillant, qui ne nous fera plus voyager physiquement ni dans nos relations de la même manière.
Borderline, donc film que tu as bien apprécié, est en salle depuis le 1er mai. Nous rendons maintenant hommage à Laurent Cantet.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
C'est à 63 ans que Laurent Cantet est mort, contre toute attente. Cantet, c'est une quinzaine de films et 2,4 millions d'entrées en salle. Un cinéaste exigeant, vainqueur à Cannes tout de même, pour un film salutaire, mais en ayant réalisé bien d'autres. Le cinéaste savait rester simple quand on l'avait face à soi, et je l'ai eu plusieurs fois en face de moi, et je l'appréciais d'autant plus qu'il est né dans la même maternité que moi. Et oui, c'est un petit gars du Poitou. Il fait partie de ces créateurs issus d'un univers modeste qui ont su ramener des questions de leur monde, soit de la moitié de la population. Tous ces films sont travaillés par la question de la domination, de la lutte des classes, du travail, tout en conservant une dimension romanesque. Nous allons pouvoir jouer à un blind test. Alors c'est l'occasion, surtout parce que ça va être plutôt facile pour ceux qui connaissent évidemment la filmographie de Laurent Cantet, mais c'est surtout pour éclairer sa filmographie. Nous commençons avec ce premier extrait.
T'arrêteras jamais, t'es un minable, c'est ça ? Hein ? Tu me fais honte, tu comprends ? Tu me fais honte, mais c'est pas grave. Parce que la honte, je connais depuis tout petit. La honte d'être ton fils. La honte d'être le fils d'un ouvrier. Puis la honte pour aujourd'hui d'être un étudiant qui a honte d'être fils d'un ouvrier.
Eh, ça, y a pas de quoi avoir honte, hein ?
Mais c'est à lui qu'il faut dire ça, c'est pas à moi, c'est lui qui m'a mis ça à la tronche. La honte de sa classe. Je t'ai annoncé une bonne nouvelle, papa. T'es pas viré, t'es mis à la retraite. Et t'es mis à la retraite, c'est pas parce que t'as été un bon ouvrier pendant 30 ans. Ça, c'est une faveur du patron. Un geste qu'il a fait pour moi. Parce que moi, il m'aime bien. Parce que moi, je peux lui parler d'égal à égal avec lui. Ça me dégoûte. Tu comprends que ça me dégoûte ?
Quelle scène ? Alors, c'est trouvé.
Et c'est donc Ressources humaines.
Oui, film de 1999, on pourrait dire que ça a commencé comme ça. Franck, étudiant d'une grande école de commerce, fait un stage dans l'usine de son père. Il se rend compte que l'entreprise prévoit un plan de restructuration avec le licenciement de 12 personnes, dont son père. C'est ce qu'on apprend dans cet extrait. C'est une chronique sur le monde du travail questionnant la filiation, la lutte des classes, l'ascension sociale et montrant l'impossibilité pour un fils d'ouvrier qui sort d'une école de commerce de trouver sa place, car le fils n'est plus forcément dans le monde des ouvriers, mais n'arrive pas non plus à se fondre dans celui des cadres auquel il est promis par l'ascension sociale. Un film fabriqué avec des ouvriers, des cadres et des syndicalistes, dans lequel commençait pour la première fois Jalil Lesper, qui a remporté le César du meilleur jeune espoir masculin. Et puis Laurent Cantet, lui, a décroché le César de la meilleure première œuvre. Ça lui a bien servi. 244 000 entrées en France pour ce film Ressources humaines, qui est actuellement diffusé en replay sur Arte. Deuxième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Laurent Cantet.
Cela dit, je comprends que les femmes bien en chair puissent intéresser certains hommes.
Tu es tellement polie, une femme bien en chair. Moi, j'ai pas peur de le dire. Les grosses, je ne peux pas.
Ah, tu es jalouse.
Jalouse, tu rigoles. Je peux pas m'empêcher de penser qu'elles le font exprès d'être grosses. Je vous assure que devant un Rubens, j'ai la nausée. J'ai envie de mettre le feu au musée.
Devant quoi ?
Rubens, un peintre hollandais qui peignait des grosses femmes avec des gros culs, des gros seins, des grosses ventres pleines de graisse.
Ça fait envie, hein?
Ah, ben, je t'en prie, mon chéri. Tu as tout ce qu'il te faut ici.
Alors, facile, parce qu'on a pu reconnaître déjà l'actrice.
L'actrice, c'est Charlotte Rampling, oui. Et donc c'est Vers le Sud.
Oui, film sorti en 2005. Une bande de jeunes garçons échangent leur charme et leur tendresse contre quelques faveurs en Haïti auprès de femmes mûres venues pour la plupart des États-Unis. 127 000 entrées en France. Il a reçu quelques récompenses à la Mostra de Venise, donc en 2005. Maintenant, on passe à un gros four du réalisateur. Ce film n'a pas du tout marché en salle.
Quoi qu'on en pense, une chose est certaine, c'est que ça va faire du buzz et que tout le monde voudra entendre Karine.
Non, Nicolas, moi je travaille pas comme ça et vous le savez très bien. On vient de publier un livre qui pose la question de l'immigration en France, qui renvoie violemment et profondément la responsabilité politique sur ceux qui en ont la charge, et son auteur se comporte comme le pire des extrémistes. Alors oui, on parlera de Karim, ça c'est sûr, mais il faut pas se leurrer. Plus personne ne parlera du livre.
Alors, trouvez.
Alors, c'est Arthur Rimbaud, et c'est amusant. Enfin, c'est amusant, puisque j'ai vu hier ce film sur l'école.
Entre les murs.
Entre les murs. Et l'acteur principal faisait ses débuts, en fait, dans Entre les murs. Il était en quatrième, il n'était pas comédien à l'époque. Et l'acteur principal d'Arthur Rimbaud, je ne sais plus comment il s'appelle.
Oui, moi non plus. Bon, il n'était pas très
connu. Rabat quelque chose, oui. En fait.
Arthur Rimbaud, donc sorti en 2021, jeune écrivain issu de la diversité, publie son premier roman, tandis que l'on retrouve, et bien sûr, Internet, ses anciens commentaires homophobes et antisémites, publiés sous le pseudonyme de Arthur Rimbaud, un gros clin d'œil à Arthur Rimbaud, évidemment. Et nous poursuivons justement dans cette filmographie. Vous jouez un blind test pour reconnaître les titres de films de Laurent Cantet.
Je t'ai laissé des tas de messages. Tu les as écoutés au moins ?
Ah oui, bien sûr, je les ai écoutés.
C'est idiot. Hein ? J'ai repris contact avec d'autres boîtes qui n'auraient pas hésité à t'engager.
Mais ça va.
Mais comment ça, ça va ?
Je vais bien, je comprends pas pourquoi tu insistes.
Bah attends, Vincent. Bah, tu te fais virer. Et puis du jour au lendemain, tu ne me donnes plus de nouvelles. C'est normal que je m'inquiète.
Non, je trouve pas ça normal, je sais pas moi. On travaille ensemble, hein, c'est tout.
Bah, tu plaisantes ou quoi ? Enfin, on était vachement proches, non ? On a bouffé ensemble quasiment tous les jours pendant 10 ans. Et puis le nombre de soirées qu'on a passées ensemble à boucler des dossiers, c'est pas rien, ça.
Non, et puis ça a plus d'importance. Ça peut te rassurer, j'ai trouvé un nouveau boulot. Et...
Bah, qu'est-ce que tu racontes ?
Ça se passe très bien.
Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? Bah, t'es bizarre, quand même.
Il est effectivement bizarre.
C'est donc L'emploi du temps, hein, qui est... Peut-être pour moi son meilleur film, celui qui m'a le plus impressionné.
Film de 2001, donc avec Aurélien Recoing, que l'on entend. Il est consultant en entreprise, mais il est licencié. Il décide de le cacher à son entourage et à sa famille en s'inventant un nouvel emploi du temps à Genève. C'est inspiré librement, alors très librement, de l'affaire de Jean-Claude Roman, parce que Nicole Garcia a vraiment fait un film d'adversaire qui collait complètement à l'histoire de Jean-Claude Roman. Le film repose sur un personnage qui a peur de décevoir et qui veut coûte que coûte sauver la face et garder eh bien, une reconnaissance sociale. Alors ce n'est pas sans conséquence évidemment, puisque cela passe par des mensonges et des arnaques. La fin laisse augurer que le personnage d'ailleurs se raccroche à quelque chose qu'il voit comme un échec. Réflexion sur la place du travail dans la société et la violence que la société inflige aux sans-emploi. Je me souviens très bien avoir rencontré donc, Laurent Cantet quand il est venu présenter L'emploi du temps, et il avait insisté sur le fait que ce film avait été tourné en hiver et que c'est vrai qu'on voit plein de films qui sont tournés avec la belle lumière. Et là, il avait fait exprès de tourner le film avec la pluie, avec le gris. Voilà, ça ajoute une certaine tonalité à ce film. 226 000 entrées en France, donc, pour L'emploi du temps. Dernier extrait de ce blind test.
Même s'il y avait comme ça le minimum de risque qu'un processus disciplinaire conduise quand même à un retour au bled, ben, je ne suis pas sûr de pouvoir assumer de prendre ce risque. Voilà.
Ouais. Tu vois, c'est comme quand on hésite à mettre une sanction ou à punir un enfant parce qu'on sait qu'après, quand il va rentrer chez lui, que la porte sera fermée, qu'il sera plus au collège, il se prend une claque, il se fait battre par ses parents. On a tous connu ça, tu vois. Et ben, c'est pas pour autant qu'il faut qu'on arrête de les punir quand ils dépassent les limites. C'est toujours pareil, tu vois. Quoi qu'en soit, les conséquences qui te regardent pas.
Donc, à aucun moment, je tiens compte de ça, quoi. C'est-à-dire, je sais qu'une punition peut mener à ce genre de conséquences, mais je me voile la face, je veux pas le savoir, c'est ça.
Non, mais je comprends.
Si tu rencontres pour chaque gamin, tu fais plus rien, quoi. C'est fini, quoi. Si y a la violence, il y a le retour au bled, quoi. Enfin, c'est sûr que tu dois le prendre en compte, mais au bout d'un moment, faut...
J'ai pris un extrait dans la salle des profs.
C'est Entre les murs. Ouais. Donc,
film de 2008, une année de collège dans un lycée parisien du 20e arrondissement, condensé en 2 heures avec de vraies questions sociopolitiques sur la place de l'école, la violence de la société, encore une fois, et les inégalités sociales. Palme d'or 2008. Et cette fois-ci, 1,8 million d'entrées, comme quoi l'effet Cannes a bien fonctionné quand même pour ce film. C'est le seul film de Laurent Cantet qui aura dépassé le million, voire qui aura dépassé les 250 000 entrées. C'était donc un blind test autour de la filmographie de Laurent Cantet, donc, qui est mort la semaine dernière. Un trio est réuni après la guerre au Japon. Nous parlons de L'Ombre du Feu.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Figure emblématique du cinéma underground japonais ayant émergé dans les années 80, avec le démentiel Tetsuo, un trip cyberpunk encore inégalé dans son genre, Shinya Tsukamoto a poursuivi une carrière en dancey mais passionnante, toujours soucieux d'un renouvellement formel, tout en creusant ses thématiques doloristes autour de la souffrance, la mort, l'automutilation et la mutation. Alors que de réjouissance au sein d'une vision du monde violente, provocatrice et radicale à travers une vingtaine de films. Il a enchaîné les films coup de poing de Tokyo Fist à Bullet Ballet, en passant par une suite de Tetsuo. Alors tombé dans les limbes de l'oubli, il a tenté de se renouveler avec des plus consensuels Nightmare Detective 1 et 2. Depuis, il s'est retiré du système, réalisant comme à ses débuts des petits films personnels, fauchés et fascinants. Nous ne remercierons d'ailleurs jamais assez Carlotta d'avoir édité l'an dernier un magnifique coffret regroupant 10 films du cinéaste et de continuer dans cette démarche audacieuse pour sortir en salle son nouveau long métrage, L'Ombre du Feu. Alors le récit se situe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, moment charnière pour le Japon, qui tente de recoller les morceaux et panser ses blessures, toujours sous le choc de la défaite de la bombe H. Et des faits qui ne sont pas rapportés par le cinéaste, mais qui, dès les premières images, sont sous-entendus de manière très forte grâce à la mise en scène immersive, qui déploie vraiment un sens du hors-champ sidérant. Seule survivante de sa famille, une jeune femme est cloîtrée dans un bar en ruine, guettant les moindres clients qui, comme on s'en doute, ne viennent pas que pour boire. Un jour débarque un gosse abandonné qui va rapidement s'attacher à la tenancière provisoire du lieu, puis arrive à son tour un jeune homme en uniforme. La prostituée, le soldat et l'orphelin, tel aurait pu être le titre du film, du moins dans sa première partie, comptant dans un premier temps la relation atypique de ce trio singulier à la recherche de réconfort et d'humanité. Les prémices d'un mélodrame écorché et résilient, laissant poindre une lueur d'espoir au cœur du chaos, alors sont vite balayées par le regard cruel d'un cinéaste plus nihiliste que jamais. Cette stabilité furtive, avec ses quelques instants de bonheur suspendus dans le temps, ne résiste pas à la maladie mentale et physique qui va s'emparer des personnages, à leur trauma et névrose encapsulés dans une bulle tragique et sans issue. Les trois survivants ne peuvent surmonter l'insurmontable. L'illusoire rapprochement se mute en effroi dans une incapacité à transcender l'impossible. Alors pour rendre palpable cette atmosphère pesante dans son huis clos éprouvant, filmé entre quatre murs délabrés dans sa triste nudité, Shinya Tsukamoto use des moyens du cinéma avec une virtuosité unique, alors tant au niveau du montage brutal et lisible et du filmage avec une caméra à l'épaule explorant le décor dans ses moindres recoins, sorte d'antichambre à peine plus reluisante que le monde extérieur. Alors cette magistrale première partie, vampirisée par des comédiens habités, avec une mention spéciale pour la sensationnelle Shuri, témoigne donc du talent intact de Tsukamoto, le plus intransigeant des cinéastes de sa génération. L'Ombre du Feu prend ensuite un tour inattendu, tout en rupture de ton et de forme, révélant la complexité de son auteur, sa schizophrénie artistique, passant de l'horreur pure à une note d'espoir inattendue, en changeant de point de vue, passant donc de la jeune femme à l'orphelin, devenant le fil conducteur du récit. La nouvelle direction, si elle surprend, alors ne convainc pas pleinement, plus confuse que troublante, amoindrissant quelque peu la puissance du premier acte. Alors le survival immersif laisse place là à une errance, filmée à hauteur d'enfant, suffisamment mystérieuse pour ne pas perdre son intérêt. Alors L'Ombre du Feu, c'est vraiment un beau film fragile et déroutant, une réflexion de l'impossible deuil de l'après-guerre, en partant d'une situation excessive et déchirante. Alors moi je conseille vraiment de regarder aussi d'autres films de Tsukamoto qui est un cinéaste un peu oublié aujourd'hui malheureusement, mais c'est un des plus importants de ces 40 dernières années.
L'Ombre du Feu est en salle depuis le 1er mai. Des braqueurs en cavale se mêlent à une colo avec des personnes handicapées. Un petit truc en plus, c'est le premier film d'Artus.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinérama.
Je vous adore, vous êtes la joie de mon cœur.
Quand il y a une comédie, c'est pour moi, donc j'ai pu voir un petit truc en plus, le premier film de l'humoriste Artus, un film à faire et en même temps vraiment à ne pas faire. Alors ce qui est à faire, c'est de tourner, pourquoi pas, avec des personnes atteintes d'un handicap mental, mais sans prendre des acteurs, car il en existe, des acteurs handicapés qui sont dans des troupes vraiment professionnelles. Et dans un petit truc en plus, il n'y a que les vrais comédiens qui composent, soit Artus notamment, Clovis Cornillac et Alice Belaïdi. Mais au-delà de cette belle idée, la comédie est très très mal écrite. Il n'y a absolument aucune surprise, donc aucun plaisir. Le spectateur a toujours beaucoup d'avance sur ce qui va se dérouler, ce qui est très frustrant. Et ce n'est pas les quelques galgues bien senties qui vont sauver ceux qui tirent vers le poncif. Ah, les handicapés nous révèlent à nous-mêmes, ils sont les seuls à ne jamais jouer. Beaucoup de facilité pour cette comédie dont on connaît la fin bien avant qu'elle n'arrive avec notre héros qui emballe la super minette. Voilà, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Je ne comprends pas qu'on puisse produire pareille fadaise, mais des spectateurs ont applaudi dans la salle, c'est peut-être une des raisons. Voilà, un petit truc en plus est en salle depuis le 1er mai. Rire est une fête mémoire cache d'un réalisateur culte. C'est l'autobiographie de Jean-Marie Poiré et c'est Guillaume qui s'y colle parce qu'il apprécie énormément le réalisateur.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Sous-titré « Mémoire cache d'un réalisateur culte », « Rire est une fête » annonce clairement la couleur. En dédiant son livre à Billy Wilder, Blake Edwards, Federico Fellini, Mel Brooks, Woody Allen ou encore Buster Keaton, Jean-Marie Poiré n'est pas là pour ne parler que de son nombril, mais aussi célébrer le genre dans lequel il s'est révélé et qui lui a permis d'établir son nom comme une valeur sûre du cinéma français. Alors même s'il est bien évidemment question de sa longue, mémorable et intense carrière, il n'en oublie pas ses illustres modèles et mieux, il tente de donner la recette de ce qui va faire réagir le public pour que ça soit par son biais ou celui de ses magnifiques modèles. Alors tous partageant un amour inconsidéré pour le cinéma de manière générale, cela ne pouvait que donner une lecture assez indispensable. D'autant plus que Si rire est une fête a également le bonheur de revenir sur des films moins connus de sa filmographie, comme Les Petits Câlins et Retour en Force, et revient sur le triste échec du pourtant formidable Mes Meilleurs Copains, il rassemble pour l'occasion toute une série d'anecdotes folles mettant en scène les plus grands, comme par exemple le fait d'avoir croisé le grand Marcel Carné dans un sex shop qui s'y faisait alors conseiller le plus grand film de tous les temps par un vendeur plutôt lunaire. Alors si nous sommes totalement rassasiés en ce qui concerne le traitement du cinéma, le focus étant bien évidemment très majoritairement fait là-dessus, on aurait aimé en savoir un tout petit peu plus sur certains détails de sa vie d'adolescent et de jeune adulte, quand Poiré faisait du rock et se produisait dans un groupe de hard rock portant le nom de Frenchies. Non pas qu'on n'a pas pléthore de détails sur sa vie d'avant le cinéma, et surtout croustillant et passionnant, étant donné qu'il n'est rien de moins que le fils du grand producteur Alain Poiré, mais on aurait aimé un peu plus sur cette facette rock'n'roll qui a bien évidemment directement influencé son cinéma. Poiré fait du rock'n'roll avec sa caméra, en le sens qu'il s'est filmé dans les chemins de traverse pour aborder le genre de la comédie qui s'être beaucoup trop sage en France, qui n'hésite pas à travailler lui-même ses montages de sorte à arriver à une hystérie que n'auraient pas renié Michael Bay et Tsui-Hark. Car oui, osons le dire, et ses mémoires remettent l'église au centre du village, Jean-Marie Poiré est un réalisateur qui a une vision de la mise en scène bien plus audacieuse que beaucoup de ses confrères dans le registre de la comédie et n'a pas hésité à expérimenter dans son montage à l'image d'un Tsui-Hark qui n'hésitait lui aussi à dépasser les limites du bon goût et de la beauté formelle pour toucher du doigt une efficacité et une dynamique qui confèrent au long métrage un souffle unique.
Je me trompais pas tout à l'heure quand je disais que vous étiez tendu.
Oui, je suis tendu, très tendu. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la femme qui va débarquer ici d'une minute à l'autre veut tout raconter à ma femme. Elle est capable de camper sur le palier. C'est une sale petite arriviste.
Laissez-moi lui parler. Et Maurice, il trouve toujours les mots justes pour apaiser les conflits.
Autre manque et de taille, il n'y a malheureusement absolument rien sur Ma femme s'appelle Maurice, qui fut longtemps son dernier film, jusqu'à ce que Les Visiteurs, La Révolution replace le réalisateur sur grand écran en 2016. Alors nous n'en saurons donc pas plus sur les pérégrinations assez dingues de Chevalier Las Palès qui mène Violeur de mouches et Appartement huppé, découpé à la tronçonneuse entre Paris, Venise et Berlin, ce qui témoigne peut-être que c'est le seul souvenir que Poiré n'a pas envie de se rappeler. En soi, ce qu'il relate en 420 pages bien remplies est déjà assez conséquent pour nous donner envie de voir et revoir une belleté de films cultes qui continue de battre des records d'audimat à chaque diffusion, que l'intelligentsia le veuille ou non. Il rappelle avec émotion que l'humour peut être ambitieux, dégénéré, sans frontières, immoral, mais aussi sensible comme dans Les hommes préfèrent les grosses, savant et même cinéphile, comme en témoignent les clins d'œil savoureux à L'armée des ombres et Le silence de la mer, les deux chefs-d'œuvre de Jean-Pierre Melville qui seront bien évidemment cités, mais avec beaucoup de respect, dans l'inénarrable Papy fait de la résistance. Rire est une fête et donc une radiographie de plus de 50 années d'amusement, de projets insolites, de performances mémorables et d'une passion qui n'ont de comparable que l'investissement toujours motivé par la plus grande passion qui soit de la part de son attachant et anarchique auteur. Un petit indispensable pour les amateurs d'une figure toujours fédératrice du cinéma français et qui peut nous faire dire « Non, il n'a pas changé ».
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine. Guillaume, après Jean-Marie Poiret, nous parlera sans transition de James Cameron, car un livre lui est consacré. Et vous?
Moi, j'aurai un petit film français qui s'appelle Jeunesse, mon amour.
Et moi, un western de Viggo Mortensen.
À la semaine prochaine.